chez Kwasi. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous démarrons cette édition de 12 heures. Jeudi 13 mars 2025, madame, monsieur, voici les dominantes de l'actualité. Gestion optimisée de la migration de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Un atelier collaboratif se tient à Grand Bassam depuis hier mercredi pour affiner la stratégie nationale. Un engagement du pays renforcé par le soutien de l'OIT. Encadrement des activités de la société civile. Une nouvelle ordonnance adoptée en commission fait émerger des inquiétudes face aux restrictions imposées pour l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. C'est un affaiblissement du contre-pouvoir. Hors de nos frontières, le Cap en Afrique du Sud accueille ce jeudi le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud. Une occasion pour les deux parties de renforcer leur coopération pour faire face aux défis du moment. Et puis l'invité de la rédaction de ce jour est Dizo Kevin. En notre compagnie, ce juriste se prononcera sur l'acquisition récente du décret de renonciation à la nationalité française par Jean-Louis Billon. Voilà pour l'essentiel. Radio de l'appel 12h. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire s'engage résolument dans l'amélioration de la gestion de la migration de sa main-d'œuvre. Le pays est en phase de validation technique de sa stratégie nationale visant à harmoniser sa politique de l'emploi avec les normes internationales grâce au soutien de l'OIT, Organisation internationale du travail. Un atelier de 3 jours se tient à cet effet à Grand Bassam du 12 au 14 mars, mettant à contribution des représentants du gouvernement, des employeurs, de la société, des employeurs et de la société civile afin de peaufiner cette stratégie ambitieuse. On fait le point avec Junior Cardin.
Cet atelier est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis 2022. André Aya Alida, coordinatrice nationale du programme intégré pour le recrutement équitable de l'Organisation internationale du travail, OIT.
Les chiffres montrent que la Côte d'Ivoire, bien qu'elle soit un pays d'accueil, est devenue aujourd'hui un pays de départ. Et il n'y a pas de cadre pour gouverner la migration de main-d'œuvre. Et donc cette stratégie nationale de migration de main-d'œuvre vient répondre à cette absence.
La problématique de la migration de la main-d'œuvre est une réalité vivante en Côte d'Ivoire. Quelques statistiques avec Agabo Jean-Marie, représentant la directrice pays du BIT.
En 2020, l'Afrique de l'Ouest accueillait 7,6 millions de migrants internationaux. Près de 34% de ces migrants, soit 2,6 millions, vivaient en Côte d'Ivoire, tandis que 17%, soit 1,3 million, vivaient au Nigeria.
Cette préoccupation constitue un véritable défi qui nécessite une synergie d'action. Et l'État de Côte d'Ivoire s'y est déjà engagé avec ses partenaires. Dogo Franck, directeur général de l'emploi.
Les orientations de M. le Président de la République ont conduit à l'élaboration de 3 cycles de politique nationale de l'emploi. Nous sommes actuellement dans le 3e cycle dont l'objectif général est de promouvoir l'accès à un emploi décent pour tous les hommes et les femmes en âge de travailler, y compris les personnes en situation de handicap, avec l'amélioration de la gouvernance de l'emploi.
L'objectif est de valider un document national de référence qui s'intègre aux grandes orientations du plan national de développement et de la politique nationale de l'emploi.
La première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et de la bonne gouvernance s'est tenue lundi à Abidjan-Cocody. Une occasion saisie par le ministre des Finances et du Budget pour souligner les réformes mises en place pour renforcer la transparence, la reddition des comptes et l'efficacité des finances publiques. Le ministre Adama Koulibaly a également évoqué les défis persistants auxquels le pays doit faire face. On l'écoute.
Ces réformes sont autant d'illustrations de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de rendre la gestion des finances publiques plus rigoureuse. En dépit des progrès enregistrés dans l'amélioration de la gestion publique, des défis subsistent. C'est pourquoi il nous faut renforcer les actions visant à améliorer davantage la gouvernance. Cela nécessite de poursuivre résolument les efforts pour lutter contre les inégalités et réduire la pauvreté. Dans ce contexte, l'engagement citoyen joue un rôle central. Les populations ne doivent pas être de simples spectateurs, mais des acteurs pleinement impliqués dans la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Cette participation active constitue non seulement un droit, mais elle apparaît également comme une condition indispensable au renforcement de la confiance entre l'État et la population. À cet égard, le présent forum est l'occasion de réaffirmer notre engagement commun à renforcer davantage la gouvernance, notamment dans les aspects relatifs à la participation, à la transparence et à l'inclusion.
Adama Koulibaly, ministre ivoirien des Finances et du Budget. Je vous l'annonçais également à l'entame de cette édition, les députés de la Commission des Affaires Générales et Institutionnelles ont adopté lundi une nouvelle ordonnance visant à encadrer les activités de la société civile et des confessions religieuses. Un texte qui soulève des inquiétudes du fait des restrictions qu'elle impose et qui pourrait entraver le bon fonctionnement des organisations de la société civile, souvent perçues comme un contre-pouvoir essentiel au gouvernement. Akemel Cristiano, juriste et chef des projets à l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, exprime son désarroi face à cette situation.
D'une manière générale, nous pensons que relativement à cette ordonnance, il existe trop d'obligations et de sanctions, y compris des sanctions pénales sur la tête des OSC, qui sont des entités non gouvernementales. Pour une ordonnance qui est supposée les organiser, en face, il n'existe presque aucune obligation vis-à-vis de l'administration publique, dont la responsabilité ne peut être nullement soulevée pour abus ou pour obstruction dans la création et le fonctionnement des OSC et des organisations culturelles. Nous pensons que les OSC ne sont pas un prolongement de l'administration publique, mais bien une force d'alternative à la démocratie, une force de contrepoids. Et cela devait être clairement inscrit dans ce texte et le rendre conforme à l'article 26 de la Constitution de la loi de 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, de même qu'au texte international. L'ordonnance a été ratifiée et de notre point de vue, lacunaire, il y a beaucoup de dispositions à revoir qui devaient être corrigées pour la parfaire. C'est une loi qui concerne les organisations de la société civile. Donc, elle devait prendre en compte les suggestions, les propositions, les recommandations qui ont été faites par les organisations de la société civile. C'est dommage que ça n'ait pas été le cas.
Akemel Cristiano, juriste et chef de projet à l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. Le ministère de la Santé, à travers son programme national de santé mentale, a organisé une journée de sensibilisation dédiée à la santé mentale des femmes. L'objectif était de lever les tabous entourant la condition de ces femmes et de soutenir leur processus de rétablissement tout en favorisant leur intégration professionnelle. Cette journée, placée sous le thème « Santé mentale et droits des femmes, briser le silence et promouvoir l'autonomisation », s'est tenue le 8 mars dernier au Jardin botanique de Bingerville. Le compte-rendu de Christelle Yesso.
Le thème de cette journée, expliqué par professeur Kwame Dar du programme national de santé mentale du ministère de la Santé.
On a proposé ce thème parce que la maladie mentale fait que ces femmes perdent le droit d'être femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne les considère plus comme des êtres humains. Une femme qui souffre de maladie mentale, on doit la respecter en tant que femme. Elle a droit à toute l'attention que tous les autres ministères font pour les femmes.
Et ce fut aussi l'occasion de revenir sur les problèmes de santé mentale de la femme, professeur Traoré Samuel, président de la Société de psychiatrie de Côte d'Ivoire.
Les problèmes de santé mentale de la femme sont en rapport avec le statut même de la femme, la société africaine. C'est-à-dire que la société lui donne des ordres et on attend qu'elle puisse se soumettre. C'est quoi ? Il faut que tu te maries avant tel âge. Et quand elle n'est pas mariée, elle commence à stresser. Et le stress peut induire des problèmes de santé mentale. Aujourd'hui, il n'y a plus les tantes, les mamans là, qui viennent autour des femmes pour les accompagner, pour gérer les enfants, face à toute la santé mentale des femmes.
Et pour le rétablissement total des femmes malades, Kone Issoufou, infirmier à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, propose leur insertion professionnelle.
Nous travaillons avec les bénévoles, des partenaires de bonne volonté qui nous aident de temps en temps à pouvoir mettre des petites de mon entreprise, de petits commerces.
Cependant, cette insertion fait face à de nombreux obstacles.
Une fois que quelqu'un est passé à l'hôpital psychiatrique, il y a des préjugés qui se disent qu'elle n'est plus capable de pouvoir produire quelque chose, même au niveau de la famille.
Au terme de cette journée, des plaidoyers en faveur des femmes ont été faits à l'État, en plus des dons en nature offerts à l'hôpital psychiatrique.
Améliorer la santé et la sécurité des travailleurs agricoles en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif d'un atelier stratégique qui se tient du 10 au 15 mars 2025 à Yamoussoukro, à l'initiative du Bureau international du travail, Bureau Abidjan. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du projet ACEL Africa, accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique. Cet atelier vise à former des experts capables d'accompagner les coopératives, notamment celles du cacao, dans la mise en place, de bonnes pratiques en matière de sécurité et de santé au travail. De Yamoussoukro, la correspondance d'Emile Yao.
Kofi Paul Angenor, coordonnateur national du projet ACEL Africa, accélérer l'action pour l'élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement en Afrique sur les enjeux de cet atelier.
La santé et sécurité au travail renferment toutes les mesures de prévention des risques en matière de santé et de sécurité au travail. Donc aujourd'hui, nous essayons de donner les connaissances suffisantes à ces formateurs, parce que ici nous formons des formateurs qui vont aller encadrer des gestionnaires de coopératives pour prévenir les risques de santé et les risques de maladies professionnelles dans les coopératives agricole de cacao.
Destiné à une meilleure gestion de la santé et sécurité dans le monde coopératif, cet outil est une innovation, voire un plus, pour intégrer la santé et sécurité au travail, considéré comme un cinquième pilier des principes et droits fondamentaux au travail. Foué Andegué Bernard, expert formateur de l'EIT.
C'est la toute première fois que cet outil va être déployé dans le contexte spécifique de la gestion de la sécurité et de la santé au travail et en Côte d'Ivoire spécifiquement. Donc c'est un atelier qui est aussi stratégique puisqu'il va permettre de tirer des enseignements de la mise en œuvre de l'outil.
Doumbia Madoussou, administrateur du travail et des lois sociales à la direction régionale du travail du Morono.
Cet outil est le bienvenu, d'autant plus que l'outil est à sa phase d'expérimentation au niveau de la Côte d'Ivoire. Et cette formation-là va nous permettre d'avoir plus d'éléments pour intervenir dans la sensibilisation.
Une trentaine de cadres des structures publiques, notamment des ministères de l'Agriculture, de l'Emploi et de la Protection sociale, de la NADER et autres, participent à cet atelier. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Rendons-nous à présent à Boaké, la capitale du Gbeke, où depuis quelques jours, un groupe d'adolescents armés de couteaux et de gourdins s'en prennent aux passants, semant la peur dans la communauté. Lundi dernier, un jeune homme a tragiquement perdu la vie suite à une attaque au couteau. Joseph Assalé, notre correspondant dans la région du Gbeke, nous en dit plus.
C'est un groupe d'adolescents âgés de 15 ans environ qui, à la nuit tombée, s'arment de gourdins et de couteaux pour agresser les passants. Leur lieu de prédilection est le quartier zone de Boaké où ces adolescents ont poignardé à mort un jeune homme le lundi dernier. Ces sinistres gamins rôdent également dans le quartier Coco selon nos informations. À Boaké, capitale de la région de Gbeke, l'on parle de plus en plus d'enfants en conflit avec la loi qui perturbe la quiétude de la cité. Et pourtant, la ville de Boaké s'est illustrée ces deux dernières années par la baisse du taux d'insécurité, au point où les autorités locales ne cessent d'inviter les bailleurs de fonds à venir investir dans la région qui naguère était le deuxième pôle économique de la Côte d'Ivoire. À l'occasion de la deuxième édition du cadre de concertation dénommé les Jeudis du district, initié par le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, les autorités policières ont engagé les populations à une meilleure collaboration avec les forces de sécurité afin de traquer davantage tous ceux qui perturbent la quiétude des populations. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Retour à Abidjan avec la chef de cuisine Zeynab Bansé qui s'apprête à relever un défi de taille en tentant à nouveau de battre le record Guinness des 131 heures et 30 minutes. L'événement aura lieu le 27 mars prochain au Parc des Sports de Trècheville. C'est dans ce même lieu qu'elle a fait cette annonce lors d'une conférence de presse mardi dernier à Abidjan. Le récit d'Ismaël Ango.
Ambiance électrique à la rotonde du parc des sports de Trècheville, le comité national de soutien aux éléphants a donné le ton et Zeynab Bansé, la chef ivoirienne, est prête à relever un nouveau défi.
Aujourd'hui, si je me retrouve devant vous, c'est pour vous annoncer encore la partie 2 du record Guinness. Et pour cela, je vous invite tous le 27 mars 2025 au parc des sports ici pour le deuxième tour du record Guinness.
Pour une erreur technique, le premier record Guinness de Zeynab Bansé n'a pas été validé le 17 décembre 2024.
Dans les règles du record, ça disait qu'il fallait filmer uniquement que moi, pas mettre d'autres images. mais j'ai les 131, mais avec d'autres images qui ne sont pas de moi, qui sont du public et des artistes qu'on a mélangés. Donc quand on a retiré tous ces petits points-là, il ne nous restait plus beaucoup de temps.
Cette fois, pas de place à l'erreur, l'équipe du Guinness World Records sera là en streaming en direct pour valider le record dès l'arrêt du compte à rebours. Une première en Afrique francophone, Zainab Bansé, elle, est déterminée à ramener ce titre à la Côte d'Ivoire.
J'aurais pu m'arrêter. Tous les Ivoiriens attendaient ce trophée qui démontrait que j'avais battu le record. Mais je dois ce prix à la Côte d'Ivoire.
Plus qu'un record, c'est un message d'espoir, de résilience que Zainab Bansé veut transmettre au peuple ivoirien.
Hors de chez nous à présent, la ville du Cap en terre sud-africaine accueille ce jeudi le 8e sommet Union européenne-Afrique du Sud. Cet événement qui n'avait pas eu lieu depuis 7 ans sera co-présidé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa aux côtés du président du Conseil européen Antonio Costa et de la présidente de la Commission européenne. Entre autres points au menu de ce sommet, le renforcement des liens de coopération entre les deux parties. En renforçant leur partenariat, l'Afrique du Sud et l'Union européenne espèrent tenir tête aux États-Unis et à la Russie. L'Union européenne représente presque la moitié des investissements directs étrangers en Afrique du Sud et les échanges commerciaux entre les deux entités est en nette augmentation ces dernières années. Toujours à l'international, le conflit dans l'est de la RDC est au menu d'un sommet extraordinaire de la SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, qui se tient ce jeudi en visioconférence. Présidée par Emmerson Mnangagwa, chef de l'État zimbabwéen, la réunion va tenter de clarifier le sort de la force armée déployée par l'organisation dans l'est de la RDC en proie à un violent conflit. Elle fait suite à la tenue d'une réunion de la Troïka de l'organisation régionale, une structure de la SADC qui se concentre sur les questions de politique, de défense et de sécurité le 6 mars dernier, lors de laquelle ont été émises toute une série de recommandations qui doivent désormais être validées par les chefs d'État. L'invité de la rédaction de ce jour est Dizo Kevin, docteur en droit privé et sciences criminelles de Nantes Université. Pour lui, les 10 mois de procédure que Jean-Louis Billon, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2025, a dû attendre pour obtenir son décret de renonciation à la nationalité française est raisonnable, mais peut varier d'un dossier à un autre. Il s'est notamment prononcé sur le cas Tidjane Thiam dans cet entretien que nous vous proposons. Docteur Dizo Kevin, bonjour.
Bonjour, monsieur Kouassi.
Récemment, monsieur Jean-Louis Billon a obtenu son décret de renonciation à la nationalité française. Alors, en tant que juriste, quel commentaire vous inspire cette information?
La perte de la nationalité de monsieur Billon s'inscrit dans ce qu'on appelle en droit de la nationalité la perte volontaire de la nationalité. Et il y a deux voies. Il y a la voie de la déclaration et il y a la voie du décret. Et en ce qui concerne M. Billon, c'est la voie du décret qui s'est appliquée à lui. Et donc, c'est l'article 23-4 du Code civil français qui permet donc à toute personne ayant la nationalité française de pouvoir demander aux autorités de perdre cette nationalité, ce qu'on appelle la perte d'allégeance. Donc ici, il faut pour ce faire avoir une autre nationalité parce que le droit français empêche l'apatridie. Donc dans le cas de M. Billon, qui est déjà ivoirien, il remplissait les conditions fixées par les textes. Donc il fallait faire la démarche et cette démarche a abouti à un décret signé le 7 mars 2025 qui fait cesser la nationalité de M. Billon à partir de cette date. Donc avant la date, il est français et cela ne peut pas être remis en cause, mais à partir du 7 mars, il n'est plus considéré comme français, donc il devient exclusivement ivoirien.
Alors, ce cas-là nous fait penser forcément à celui d'un autre cadre du PDCI-RDA, en l'occurrence le président de ce parti, M. Tidjane Thiam. Est-ce que les deux cas sont similaires?
Pour parler des cas, il faut revenir aux circonstances d'acquisition de la nationalité française. Dans le cas de M. Billon, il a acquis la nationalité par filiation. Donc sa mère étant française, la loi française lui donne accès par la filiation à la nationalité française. Dans le cas de M. Tidiane Thiam, on peut parler d'une acquisition par la naturalisation. Mais dans tous les cas, les deux individus sont français et donc ils sont concernés par la rénonciation par décret. Donc, ce qui revient à dire que M. Tidiane Thiam s'inscrit dans la même démarche, dans le même processus que M. Billon. Donc, il saisit les autorités françaises et il faut qu'il justifie d'une autre nationalité en dehors de la nationalité française. Et l'autorité administrative va analyser cela et cela va suivre son cours jusqu'à ce qu'il puisse lui aussi obtenir un décret qui va marquer la perte de la nationalité française. Et à partir de ce décret, il sera considéré comme n'étant plus français et pouvant prétendre être exclusivement ivoirien.
Monsieur Jean-Louis Billon a dû attendre 10 mois pour obtenir ce décret.
Oui.
Le président du PDCI-RDA vient d'engager sa procédure. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même durée?
En la matière, le texte lui-même, c'est-à-dire l'article 23-4 du Code civil français, qui permet donc cette perte de nationalité par décret, ne fixe pas de délai d'instruction de la demande. Donc, on va dépendre des différents dossiers qui sont portés devant les autorités françaises. Donc, s'il y a une surcharge de dossiers en ce qui concerne les pertes de nationalité, les délais seront plus longs. Mais s'il y a moins de dossiers, les délais peuvent être plus courts. Mais dans tous les cas, il s'agira d'un délai raisonnable. La question maintenant qui se pose, c'est de savoir est-ce que le délai de 10 mois qu'a attendu M. Billon est un délai raisonnable. Quand nous analysons les différentes procédures qui ont déjà eu cours en droit français, on peut dire que ce délai-là est raisonnable. Donc, alors, on ne peut préjuger du temps que fera la demande ou la procédure de M. Thiam, qui peut être plus courte ou plus longue.
Quel est le délai le plus court ou alors le délai le plus long?
C'est un processus qui fait intervenir différents acteurs. Donc, le délai doit se comprendre dans l'entièreté de la procédure. Il y aura les services du ministère de l'Intérieur, ils seront mis à contribution, le ministère de la Justice, la direction des étrangers français. Donc, c'est toutes ces entités-là qui devront intervenir chacun en ce qui concerne ses compétences sur cette démarche. Donc, on peut dire, grosso modo, 10 mois pour moi, c'est un délai raisonnable. Mais on ne peut pas se fixer là-dessus. Il y a des procédures qui ont certainement eu des délais moins longs que 10 mois, mais la moyenne, on est dans ce cadre-là. 6 mois, 7 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, et voire plus selon la complexité du dossier, parce que les autorités vont vérifier que celui qui demande la déchéance de la nationalité française est une autre nationalité. Et donc, c'est par des documents qui seront analysés, authentifiés. Donc, tout ça, ça prend du temps.
Docteur Dizo Kevin, merci beaucoup.
Merci, monsieur Kwasi, et à bientôt.
Nous étions en compagnie de l'invité de la rédaction, Dizo Kevin, docteur en droit privé et sciences criminelles des Nantes Université. Invité de la rédaction qui met fin à ce journal dont on rappelle les titres. Gestion optimisée de la migration de la main-d'œuvre en Côte d'Ivoire. Un atelier collaboratif se tient à Grand Bassam depuis hier mercredi pour affiner la stratégie nationale. Un engagement du pays renforcé par le soutien de l'OIT. Encadrement des activités de la société civile, une nouvelle ordonnance adoptée en commission fait émerger des inquiétudes face aux restrictions imposées. Pour l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, c'est un affaiblissement du contre-pouvoir. Fin de ce 12h, prochain rendez-vous de l'information, 15h. Mais pour l'heure, je vous laisse en compagnie de Francis Aka pour la revue de presse sur Radio de la Paix.
Bonjour à tous. 4 journaux, 3 pro-pouvoirs et 1...